Je vais essayer de faire 3000 ans en 10 minutes. On va voir comment ça marche, mais heureusement, les deux intervenants avant moi ont dégagé déjà un certain nombre de concepts et d'idées qui vont réapparaître dans ma présentation. Pour info, l'objet à gauche, c'est une des premières pièces de monnaie de l'histoire, et à droite, c'est une sorte de symbole de peut-être du futur. Je vais partir de la définition classique, fatigante, mais classique, qu'on a tous un peu en tête. Qu'est-ce que c'est que la monnaie? C'est un actif qui peut servir de réserve de valeur, d'unité de compte et de moyen d'échange. Quand on regarde ces trois éléments, réserve de valeur, il y en a plein des réserves de valeur. Ma maison est une réserve de valeur, ma voiture est une réserve de valeur. Donc il y a énormément de choses qui sont des réserves de valeur. Donc ça, ce n'est pas très, très distinctif. Unité de compte, oui, c'est peut-être un peu plus lié à la monnaie. Mais enfin, après tout, l'unité de compte, c'est quoi? C'est une standardisation, on décide de choisir un bien qui va mesurer les autres. Ça n'a pas l'air si monétaire, si monétique. Moyen d'échange, oui. Là, ça peut être, ça capture un peu plus notre imagination. Ça semble être ce qui est le plus spécifique à la monnaie. Et puis, depuis des siècles, c'est un peu la fable de la double coïncidence, l'absence de double coïncidence de besoin, celle qui a été utilisée pour justifier l'émergence de la monnaie. Peut-être même que c'est à l'origine historique de la monnaie. Je dirais que mon sentiment, c'est qu'on a peut-être un peu surévalué l'attention. On a peut-être mis un peu trop d'attention sur le moyen d'échange. Et plus je lis l'histoire, plus je me dis que c'est la monnaie comme unité de compte qui peut être importante. Et de nos jours, c'est encore plus le cas. Mais enfin, je vais quand même repartir du moyen d'échange. Dans une économie d'échange volontaire, le problème, c'est fréquent, ce que certains historiens ont appelé le problème fondamental de l'échange, c'est tout simplement un échange volontaire, c'est un quid pro quo, je donne quid, vous donnez quo, mais il y a souvent un temps qui sépare les deux, je donne quid, et puis un peu plus tard, vous me donnerez quo, parce que vous n'avez pas le quo, par exemple, ou alors parce que ça prend du temps pour le livrer, ou ce genre de choses. Et alors évidemment, celui qui a reçu le quid n'a pas intérêt à donner le quo, il n'a qu'à garder le quid et le quo. Donc il y a un problème de confiance, il y a un problème de trahison. Il faut un mécanisme pour réaliser ces transactions qui sont en principe désirables et améliorent le bien-être des deux parties puisque ce sont des échanges volontaires. Alors une solution, c'est de se reposer sur le crédit, mais le crédit, ce n'est pas si facile. Ça suppose énormément de choses, ça suppose beaucoup d'informations. Que je note ce que vous avez fait dans le passé, est-ce que vous êtes bien comporté, mal comporté, et puis ça suppose des moyens de contrainte, soit explicites, des tribunaux, la police qui va vous mettre en prison si vous ne payez pas vos dettes, ou alors des moyens de contrainte plus informels, qui est si vous vous comportez mal, on va tous vous punir collectivement en refusant de jouer avec vous. Mais ce n'est pas facile à mettre en place. La monnaie, dans une certaine mesure, remplace la confiance. On n'a plus besoin de se faire confiance l'un à l'autre, dans le cadre d'un échange volontaire de deux personnes, mais il y a tout de même la confiance quelque part, mais la confiance, elle est déplacée vers l'objet monétaire qui va servir de moyen d'échange. Ça n'est qu'une solution partielle, parce que finalement, pourquoi est-ce que j'accepte la monnaie dans un échange? C'est non pas pour son intérêt intrinsèque, sinon ça serait un échange quid pro quo par définition. Donc je l'accepte non pas pour sa valeur intrinsèque, mais parce que je pense que je pourrais la refourguer à quelqu'un d'autre un peu plus tard. Donc ça dépend de mes anticipations, de mes croyances, des normes avec lesquelles je vis, on peut appeler ça de différentes façons. Mais il y a possibilité d'équilibre multiple. Si personne ne croit que la monnaie a de valeur, la monnaie n'a pas de valeur. Pourquoi j'accepterai la monnaie si personne d'autre ne l'acceptera?? Si tout le monde accepte la monnaie à la valeur, à ce moment-là, moi j'ai intérêt aussi à l'accepter, et donc elle aura de la valeur. Donc il y a cette possibilité d'équilibre multiple. La monnaie permet des échanges qui n'étaient pas possibles, des échanges anonymes, on n'a plus besoin de tout savoir sur soi, sur les autres, mais elle peut être fragile, et ça revient régulièrement en l'histoire. Pour découper très rapidement l'histoire en trois phases, il y a la monnaie. Je vais surtout penser identifier la monnaie avec la monnaie frappée, ce qui est une réduction. Il y a la monnaie métallique et puis il y a ce qu'on a de nos jours, ce dont a parlé Michel Aglietta, la monnaie purement fiduciaire. Il faut bien savoir que l'unité de compte précède la monnaie, le moyen d'échange de plusieurs millénaires. Les Babyloniens avaient des unités de compte, les utilisaient, c'était en général de l'argent. La naissance de la monnaie métallique proprement dite, c'est vers 650 avant Jésus-Christ, à la frontière entre l'Europe et l'Asie en quelque sorte, là où le monde asiatique rencontre le monde européen. Qu'est-ce que ça veut dire la naissance de la monnaie? Ça veut dire qu'on standardise le moyen d'échange. On utilisait déjà des bouts de métaux comme moyen d'échange, on le voit dans l'archéologie, mais là, ce qui apparaît, c'est qu'on standardise un poids unique, constant, et des dénominations, des fractions, qui vont, c'est assez incroyable, de 1 jusqu'à 1,96e. Et assez curieusement, autant on a standardisé les poids, on n'a pas standardisé le contenu, puisque les premières monnaies sont un mélange de variables d'or et d'argent. Enfin, éventuellement, assez rapidement, on débouche sur un système or pour les pièces les plus précieuses, argent qui vaut 10 fois moins, et puis bronze ou cuivre qui vaut 50 fois moins. Système, donc la monnaie métallique, a beaucoup de succès dans le monde européen, pas dans le monde asiatique, curieusement. Les Babyloniens, ils se passaient de monnaie avant, ils se sont passés de monnaie après, ils ne sont pas empressés pour adopter ce système. Donc, dans le thème monnaie et société, quand est-ce que la monnaie fait société, c'est intéressant de constater que l'essor de la monnaie frappée coïncide aussi avec l'essor de la police grecque, de l'agora, du marché, et d'un système politique assez novateur dans l'histoire. Qu'est-ce qui est intéressant avec la monnaie métallique? Je parlais de la fragilité de la monnaie, du fait qu'elle peut perdre valeur si plus personne n'y croit. La monnaie métallique, elle contient sa propre caution, d'une certaine façon. Si elle est faite d'un métal précieux, si plus personne n'accepte ma monnaie, ben, j'ai qu'à la transformer en autre chose, en bijouterie ou en ce à quoi on utilise le métal. Donc il y a une caution intrinsèque dans la monnaie métallique. Ce qu'on voit dans l'histoire, c'est que c'est presque toujours un droit régalien. Donc André a parlé de ça, le lien entre monnaie, société et État. Il est présent, peut-être pas aux origines, on ne sait pas vraiment, mais certainement dans presque toute l'histoire, l'État contrôle la monnaie, s'arroge ou se donne le droit de définir ce que c'est la monnaie. Avec plus ou moins de succès, ce n'est pas parce qu'il veut la définir qu'il y arrive. La monnaie métallique est jusqu'à très tard, jusqu'à 1800 à peu près, c'est une monnaie d'échange sans valeur faciale. Donc le lien unité de compte et moyen d'échange, il est encore assez informel. On a l'habitude de monnaie avec une valeur inscrite dessus, mais pendant tout le monde antique, le Moyen-Âge et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, chaque monnaie est un objet économique différent, avec des prix relatifs avec les autres monnaies, mais qui n'est pas nécessairement imposée par une valeur faciale. L'unité de compte stable, elle émerge quand une monnaie finit par être la monnaie qui évalue les autres monnaies. Donc faut pas, souvent, on a tendance à penser à la monnaie, mais pour une bonne partie de l'histoire, ce sont les monnaies. Même à l'intérieur d'un pays, ou à l'intérieur d'une souveraineté, vous avez une multiplicité de monnaies. Ce qu'on voit aussi dans toute l'histoire de la monnaie métallique, c'est qu'on en abuse. Et ça c'est vrai bien avant la monnaie fiduciaire, l'inflation existe depuis longtemps, elle agit sur les deux dimensions, les deux aspects de la monnaie, moyen d'échange et unité de compte. C'est une taxe sur les moyens d'échange, c'est une taxe sur la masse monétaire, mais quand elle agit sur l'unité de compte, c'est aussi une redistribution entre créanciers et débiteurs, dans la mesure où les créanciers et les dettes utilisent l'unité de compte. Si vous changez la valeur de l'unité de compte, vous transférez la richesse entre les créanciers et les débiteurs. Les exemples abondent depuis des temps très anciens. La monnaie, alors monnaie publique et monnaie privée, ce qui se passe pendant cette période de la monnaie métallique, c'est qu'une monnaie au sens plus large est aussi produite par le secteur privé. On voit des banquiers qui émergent des fonctions de change au XIIIe siècle, qui investissent des fonds et qui créent leurs propres moyens de paiement. Moyens de paiement à haute valeur, ce n'est pas les petites dénominations. Et ce qu'on voit apparaître à partir d'environ 1400, c'est les ancêtres des banques centrales. Je les appelle banques publiques pour les différencier des banques centrales au sens moderne du terme. Il y a deux types de raisons pour lesquelles ces choses-là émergent au Moyen-Âge en Europe. C'est pour rendre la dette publique plus liquide dans un certain nombre de cas, ce qui facilite évidemment aux États la possibilité d'emprunter, ou alors pour remédier à des déficiences du secteur privé, en particulier dans les systèmes de paiement qui cessent de fonctionner. Il y a deux générations de ces banques publiques, ça commence très tôt, en 1400, en Europe du Sud au début, et puis ensuite Venise, Amsterdam. On parlait de monnaie, de devises clés, c'est peut-être avant l'époque capitaliste, mais Amsterdam au XVIIe, XVIIIe, c'est la devise clé en Europe. C'est une monnaie scripturale, donc ce n'est pas une monnaie qui circule de main à main, ce sont des comptes qui sont tenus par la banque et les gens transfèrent des crédits d'un compte à l'autre pour se payer, souvent avec 100% de réserve, c'est-à-dire que la monnaie est entièrement... il y a une réserve de 100% derrière la valeur de monnaie, mais pas toujours. Et Amsterdam, en 1683, en fait, invente une monnaie inconvertible stable. Il y a une deuxième génération de ces banques qui sont plus familières, parce que c'est un peu les ancêtres plus directs de nos banques centrales, Stockholm, l'Angleterre, à Vienne, en France. Là, c'est un moyen d'échange, la monnaie papier, les billets de banque, qui sont en général convertibles en la monnaie officielle, or et argent, mais pas toujours. Le lien entre ces monnaies, ces paramonnaies au début, et les monnaies officielles, or et argent, est assez complexe. Les premières générations sont souvent des banques publiques. Les secondes, Banque d'Angleterre, Banque de France, à l'origine sont des banques privées, avec des actionnaires, mais qui ont des fonctions, qui partagent un peu les fonctions de souveraines du gouvernement. Et il y a une tension permanente entre les besoins fiscaux des États et la nécessité de maintenir la crédibilité des banques publiques, parce que, comme ça a été mentionné avant, une monnaie ne vaut que si on lui fait confiance. Je m'amuse à vous montrer ce qui est probablement le plus ancien billet de banque, 1666, à Stockholm. L'évolution, c'est vers la monnaie fiduciaire. C'était une évolution assez longue. L'idée, une monnaie fiduciaire, c'est quoi? C'est d'éliminer la caution métallique qui est dans la monnaie, qui évidemment va requérir de la confiance. Déjà, il faut arriver à concevoir que c'est possible, parce que ce n'était pas un concept évident, et ensuite que c'était utile. On voit apparaître des monnaies de nécessité au XVe siècle, qui sont des monnaies qui n'ont pas de valeur intrinsèque, mais qui sont utilisées dans les périodes de crise, d'urgence. Ensuite, les monnaies de cuivre au XVIIe siècle, et puis la monnaie de papier au XVIIIe siècle. Et souvent, ce qu'on voit apparaître au XIXe siècle, quand on pense à l'étalon or est un étalon en général convertible, mais il y a des moments où on peut basculer dans la monnaie fiduciaire, même si en général compris que c'est temporaire. L'Angleterre, de 1797 à 1821, la livre sterling était inconvertible et avait un prix qui fluctuait par rapport à l'or. La France a plusieurs reprises, et aux États-Unis, c'est le Trésor qui a émis directement les billets lui-même, mais c'est le même principe. Mais le recours à la monnaie fiduciaire reste temporaire en principe et en général assez mal vu. Ce sont vraiment les pays mal élevés qui se lancent dans l'inflation permanente. Le XXe siècle, c'est très différent. Ce graphique vous montre le niveau des prix dans plusieurs pays. Je triche un peu visuellement parce que l'index est fait pour coïncider en 1914. Enfin, il y a tout de même un sacré contraste entre avant 1914, une certaine stabilité en général des prix, et puis après 1914. Et encore là, ce ne sont pas les pires. Ça, c'est la valeur de la monnaie dans un certain nombre de pays après la Première Guerre mondiale. C'est une échelle logarithmique. Donc, on divise par 10 à chaque fois qu'on descend d'un cran. Alors ça, c'est un exemple de crise où c'est pas qu'il y a de désaccord sur la valeur de la monnaie. En Allemagne, en 1923, tout le monde est unanime. La monnaie ne vaut rien. Maintenant, où est-ce qu'on en est? Point de vue moyen d'échange, finalement, même si c'est dans la vie concrète, peut-être la manifestation la plus commune de la monnaie, quantitativement, c'est relativement peu important. Que font les banques centrales aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que la politique monétaire? C'est échanger des unités de compte aujourd'hui contre des unités de compte demain. C'est ça, varier le taux d'intérêt à court terme. C'est jouer là-dessus. Donc c'est vraiment jouer sur la valeur de l'unité de compte. Avant, jusqu'au XIXe siècle, l'objectif principal, c'était tout de même la stabilité des prix. Et on abusait de la monnaie qu'en cas de nécessité fiscale. Maintenant, s'y joue un deuxième objectif, la stabilité de l'économie, parce que, pour des raisons qui, il faut l'admettre, sont encore un peu mystérieuses, la monnaie influe sur l'économie réelle, donc peut être utilisée à bien ou à mal. Et aussi, après la crise de 2008, sont ajoutés d'autres mandats, la stabilité financière et aussi la provision de la fourniture d'actifs sûrs et liquides. Là, on revient à la réserve de valeur, mais une fonction de réserve de valeur particulièrement liquide. Que va-t-il se passer dans le futur? J'ai mentionné Bitcoin brièvement. Après tout, les livres sur tablette vont remplacer les livres sur papier. Alors, est-ce que la monnaie sur papier va disparaître aussi? C'est probable. On va trouver d'autres instruments. Le Bitcoin est un prototype très particulier parce qu'il n'est pas émis par aucune banque centrale. Il n'est émis par personne, d'ailleurs, ce qui est un peu la beauté de la chose. Mais je pense que l'unité de compte et la réserve de valeur vont rester. Et de toute façon, je crois qu'on peut faire confiance aux États. Ils ne vont pas vouloir se désengager de la monnaie aussi facilement.